Nous reconnaissons que tu nous as protégés avant de te connaître. Nous reconnaissons que tu nous protèges depuis que nous te connaissons. Nous reconnaissons que nous vivons par toi. Nous mangeons par toi. Nous respirons par toi. Nous nous habillons par toi. Nous sommes véhiculés par toi. Nous nous logeons par toi. Nous sommes guéris par toi. Nous faisons ce que nous faisons de visible aux yeux des hommes par toi, Seigneur. Et pour cela, nous sommes ici pour te donner notre reconnaissance. Que ta parole soit une bénédiction et une source de vie pour chacun de nous. Donne-moi la force et la puissance, la capacité et la révélation divine. Merci Seigneur, que ton onction coule et que ta parole fasse vivre. Au nom de Jésus, nous avons prié. En te disant merci, nous disons que nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Vous avez aimé? Mais ce qui est vrai, c'est que Bakatiango trop. Bakatiango avant trop. Mukolo nangoye yoana vanyo. Les Bakatiango avant trop. Évidemment, ils étaient en train de courir à cause du caractère chargé de la journée, notre journée. Alors, nous avons la collecte tout à l'heure. Et pour tous les nouveaux de l'église, on va vous expliquer la collecte, ça veut dire quoi? Afin que vous ne fassiez pas la confusion. Et tous ceux qui sont au loin, tous ceux qui se reconnaissent de la borne Matadi, leur soutien à cette œuvre et le bienvenu. Merci pour ceux qui le font déjà. Que la gloire revienne au nom du Seigneur Jésus. Et quand nous parlons du soutien, nous ne parlons pas du dîme et offrande de ceux de l'extérieur, de ceux de la borne Matadi, mais qui sont maintenant dans d'autres églises. Non, il ne s'agit pas de dîme offrande, soutien volontaire, tout simplement, n'est-ce pas? Dîme offrande, on donne où? À l'église où? Là où tu es, nourri, enseigné. Ce matin, moi je transpire ici comme ça, et toi tu étais venu de Kasumbalesa, ou je ne sais pas, de Inongo, et puis ta dîme, tu donnes à Inongo. Est-ce qu'il est venu d'Inongo? Lui n'est pas venu. Lui, il est déjà à Inongo, c'est bon. Lui, nous l'avons déjà transféré. Mais ceux qui sont venus d'Inongo transférés ici, ceux qui sont venus de Guadolite transférés ici, les dîmes ne peuvent plus rentrer là-bas. Et quand vous quittez la borne Matadi, la dîme ne vient plus ici. N'est-ce pas? Voilà. Peu importe la dîme que vous donniez, même si c'est 1 million de dollars, 1 million de francs congolais, ça va encore, des dollars. Là, le pasteur va te poursuivre là où, jusque, là où tu es. Waouh! Vous savez, quand vous marchez selon le Seigneur et suivant les Écritures, je vous assure, vous ne manquerez de rien. Il arrivera que vous connaissiez des moments de peine, des moments de disette, parce que ces moments-là sont très importants dans la vie d'un homme pour apprendre. Sinon, tu seras incomplet si tu n'as connu que le succès et les bénédictions et tu n'as jamais manqué. Tu seras incomplet. Et si tu n'as ôté aussi que dans la misère, 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 tu seras incomplet. Mais l'apôtre dit, je sais vivre. J'ai appris à vivre. Je sais vivre dans la disette. Je fais vivre dans l'abondance. Voilà un enfant de Dieu. De telle sorte que ni l'abondance, ni la disette ne me secouent. Je sais vivre avec le tout ça. Alors, il faut expérimenter le tout. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes à l'avant-dernier message de notre thème, notre enseignement, notre Père qui est aux cieux. Ça va nous manquer, je vous assure. On dirait que ça fait partie de nous maintenant, mais ça va se terminer. Il y a déjà quelque chose d'autre qui s'est mis en place et qui sera dit prochainement. Dieu nous fera beaucoup de bien. Dimanche prochain, nous clôturerons ensemble ici. Alors, la collecte, je disais, c'est on va vous l'expliquer tout à l'heure, ce n'est pas à confondre avec votre dîme, offrande, don volontaire que vous donnerez à un autre moment du même culte. On va vous l'expliquer tout à l'heure. Alors, prenez part à tout ce que vous faites en ces lieux, nous faisons en ces lieux pour la gloire du Seigneur. Amen. Comme la louange a été un tout petit peu écourtée, le message aussi devrait être écourté. C'est ce que je ne sais pas. Que Dieu m'aide. Notre Père qui est aux cieux. Numéro combien? 100. 129. Il faut que j'avais déjà tout écrit. Si je ne fais pas attention, je risque d'être à 128. Donc là, nous sommes à 129. Je dois corriger. Voilà. Notre Père qui est aux cieux, 129, et dimanche prochain, 130, et nous serons arrêtés là. Nous lisons ensemble, cette fois-ci nous prenons tout simplement les versets 13. Dimanche passé, nous avons lu ensemble le verset 1 du chapitre 11 de Luc. Et nous avons commencé aussi Matthieu chapitre 6 à partir du verset 9e. C'est de là que sont parties toutes ces paroles que nous avons dites à propos de notre Père qui est aux cieux. Et nous clôturons par ce texte, le dernier de cette prière, chapitre 6 de Matthieu, le verset 13. Et là, nous connaissons très bien ce texte, nous lisons tous ensemble au nom du Seigneur Jésus. Allons-y. Allons-y, je disais, nous lisons au nom du Seigneur Jésus à haute voix, vous avez déjà ça. Allons-y. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Et nous disons tous ensemble, Amen. Est-ce que vous connaissez la valeur d'Amen? Et nous disons tous ensemble, Amen. Que la gloire revienne au Seigneur notre Dieu. Acclamons maintenant sa parole en accueillant ce qu'il nous dit, car nous savons que c'est par lui et par sa parole seule que nous vivons et nous vivrons. Notre vie en dépend. Merci notre Dieu. Merci notre Dieu. Ça nous a fait du bien le dimanche passé, le mot Amen, n'est-ce pas? Parce que lorsque nous disions que nous allons terminer cette session, cette étude, cet enseignement sur notre Père qui est aux cieux, nous allons terminer par les quatre puissants mots. Et quand je disais quatre puissants mots, ce n'était pas une blague. Ce sont des mots puissants, et je vous assure. Quatre puissants mots et qui nous ont démontré leur puissance. Si quelqu'un d'autre prenait les quatre mots pour les développer, il dirait encore bien d'autres choses que je n'ai pas dit, et ça sera encore plus profond. Quatre puissants mots, car la Bible ne peut pas avoir des mots faibles. La Bible a des mots puissants. Si nous ne l'avons pas encore compris sa profondeur, ce n'est pas son manque de puissance que vous allez observer. C'est vous qui n'avez pas encore compris. Mais les jours que vous comprendrez ça, ça vous fera beaucoup de bien. Ce matin, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais compris avant en lisant la parole de Dieu. J'ai dit, waouh, ce n'est pas dans l'étude. Là, c'est dans ma méditation personnelle. Du matin. J'ai dit, waouh, c'est pas possible. C'était comme ça. C'était hier et aujourd'hui, c'était la suite. J'ai dit, waouh, c'était comme ça. C'est pas possible. Ça m'a vraiment édifié moi-même. J'ai dit, Dieu est bon. Je me suis dit moi-même dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, vraiment, tu nous comprends seulement, tu es bon. Sincèrement, Dieu est bon. Mais je ne peux pas vous dire ça parce que quelqu'un va dire, mais dis alors, c'était quoi? Non. Chacun de nous a eu sa méditation. Est-ce que toi, tu vas méditer ta méditation maintenant? Alors, chacun de nous a sa méditation. Celle-là, c'est la mienne. Un jour, peut-être, vous l'entendrez dans une prédication, parce que toutes les prédications sont l'inspiration qui vient de la méditation. Si tu ne médites pas, tu penses que ça viendra d'où? Non, et le Saint-Esprit vous rappellera tout ce que je vous ai dit, enseigné. Mais si tu n'as pas été enseigné, même si le Saint-Esprit est là, il ne te rappelle hein, rien. Donc, mais quand tu as déjà lu la parole de Dieu, et tu avais compris, même si ça t'échappe, les jours où tu seras dans les besoins, dans la circonstance, De ce que tu avais lu là, l'Esprit te dit, souviens-toi, paf, ça réjaillit en toi, ça te donne encore de la vie. Et quand tu prêches, quelqu'un dit, waouh, où est-ce que tu prends les révélations que tu as? Mais c'est en lisant la parole de Dieu. Beaucoup d'entre nous ne lisons pas la parole de Dieu, nous ne méditons pas la parole de Dieu, nous ne retirons pas. Et puis c'est ça, la parole de Dieu est loin de nous, nous ne la lisons pas, nous sommes juste enfants de Dieu. Mais aller en profondeur des Écritures, on ne lit pas. Et ce sont des secteurs qui vont en profondeur de leur fausse doctrine. Et ils les maîtrisent très bien. De telle sorte que toi qui es dans la vérité, tu ne maîtrises pas le fondement de la vérité. Et celui qui est dans la fausseté maîtrise le fondement de la fausseté. Quand vous parlez vous deux, et tu sembles être dépaysé. Et tu peux même lui prêter crédit. Ah, mais ce qu'il dit là, ça doit être vrai parce qu'il le dit avec assurance. Mais parce qu'il a maîtrisé et parce qu'il a, il a retenu, il a mis du temps pour retenir. Ce sont les enfants de Dieu en qui ou de qui la parole doit couler. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes la lettre du Christ. Ça doit couler. Lisez la Bible. Lisez la Bible et relisez, puis relisez, puis relisez. La même chose, vous lisez, vous relisez, vous lisez, vous relisez. Ce que vous comprenez, vous comprenez. Ce que vous ne comprenez pas, vous passez. Les jours que vous allez relire encore, vous comprendrez. Ainsi de suite. Personne ne peut comprendre la Bible et toutes les phrases et toutes les tous les versets, tous les thèmes. Vous comprenez les mêmes jours que vous lisez. Non, beaucoup de choses vous comprenez plus tard. Plus vous grandissez, plus vous comprenez. Alors lisez la Bible, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci, notre club fait un grand travail. Vous voulez apprendre à lire la Bible profondément, chaque mercredi à 16h et chaque mercredi à 18h, nous avons études bibliques. Vous allez voir vous-même. Club d'abord et puis études bibliques. Dieu vous bénira à organiser votre lecture de la parole de Dieu. Merci Seigneur. Quelle profondeur. Quelle valeur. Quelle valeur. Quelle est. Je ne sais pas quelle. Quelle est la valeur du mot Amen? Quelle est la valeur du mot Amen pour qu'il occupe cette position stratégique? La position stratégique, c'est laquelle? Pardon? Clôture, clôturer, terminer une prière que le Seigneur enseigne. Et Amen vient mettre le point final. C'est une position stratégique. Quelle est la valeur du mot Amen pour qu'il occupe la position stratégique, une position, cette position stratégique dans la prière modèle enseignée par le Seigneur Jésus. Amen, nous l'avons déjà vu, Amen est un mot hébreu qui signifie en français « ainsi soit-il, qu'il en soit ainsi ». Akikongo, ça veut dire « Yavwanda plina ». En lingala, ça veut dire etikala bongo. Ainsi soit-il. Amen. Une sorte de signature personnelle de celui qui prie. Comme pour dire, tout se fera comme je l'ai dit. Alors, si tout doit se faire dans la prière comme je l'ai dit, il faut que je prenne soin de ce que j'ai dit dans la prière. Parce que les choses se feront comme je l'ai dit. Si j'ai dit des choses légères qui concernent ma vie, et que j'ai dit Amen, donc les choses se passeront, ma vie entière sera légère. Si je demande 10 francs congolais, et j'ai dit Amen, c'est-à-dire j'ai signé qu'il en soit ainsi. On ne change pas. Et si j'ai demandé 100 francs congolais, donc ces francs, 100 congolais que je recevrai. L'ennemi n'y pourra rien. Et ça, c'est très important pour que nous ne puissions pas vraiment jouer avec la prière. C'est encore dans cet enseignement que j'ai dit, la prière est une activité vitale. Elle ne doit donc pas être adressée à n'importe qui, et nous pouvons ajouter n'importe comment. Parce que vous pouvez adresser la prière à une bonne personne, mais la prière elle-même ne convient pas. Tout comme vous pouvez adresser une très bonne prière, mais la personne à qui vous l'adressez ne convient pas. Donc il faut avoir une bonne prière adressée à une bonne personne. Mais enfin, dit. À une bonne personne. Le fait d'aller dans les églises à gauche, à droite, ne suffit pas pour que vous meniez la vie de Dieu. Le fait de se dire que nous avons notre Dieu, nous avons ceci. Écoutez, vous l'appellerez Dieu. Mais lui-même, il sait qu'il n'est pas Dieu. Lui sait qu'il est en train de vous tromper, mais vous, vous l'appelez Dieu. Ne suffit pas pour que vous releviez la tête. Ne suffit pas. Et c'est pourquoi les religions du monde qui n'ont pas Jésus-Christ, mais écoutez, quelle tromperie! Quelle tromperie! Toute religion, tout mouvement dit spirituel qui n'a pas Jésus comme le centre, quel que soit le nombre qu'il y a là-bas, ces gens-là sont perdus. Cette église, telle que nous sommes au culte ici, il n'y a pas 20 personnes. C'est 20 personnes qui ont dit Amen, 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 Amen. Les autres, tout le monde s'est dit, est-ce que ce que tu dis là, c'est vrai? Et pourtant, ils sont quand même là. Ils ont la Bible à main et ils se demandent, est-ce que tu dis, ce que tu dis là, c'est vrai? Je disais que tout mouvement spirituel, toute religion, aussi grande, nombreuse qu'elle soit, si ce n'est pas Jésus qui est au centre, qui est le maître du jeu, tous ces gens qui sont dans ces mouvements sont perdus. Ce n'est pas moi qui les dis, c'est la parole que vous avez entre vos mains là qui les dit. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Car il y a sous le soleil, sur la terre, aucun autre nom qui a été donné par lequel hein, nous devions être hein, sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus. Amen. La Bible dit, et quiconque invoquera le nom du Seigneur, bon, et quiconque n'invoquera pas le nom du Seigneur, mais sera condamné, dit. Nous sommes dans le bon en invoquant Jésus-Christ au milieu de Dieu. Vous n'avez jamais compris. Vous n'avez jamais compris la grâce qu'il y a de trouver le bon Dieu au milieu de multitudes de dieux. Vous n'avez jamais trouvé ça, mes amis. C'est une grâce exceptionnelle. Vous pensez que ceux qui sont qui adorent les idoles, et les idoles humaines, un homme, il naît avec lui, même famille, demain, on le proclame Dieu et il commence à l'adorer. Vous pensez que ce ne sont pas des intellectuels. Ils ont des diplômes plus que la plupart d'entre nous. Mais adorer le Seigneur Jésus, c'est autre chose. C'est une révélation, c'est une grâce. S'il y avait un seul Dieu vrai, et il y a le seul là, il n'y a même pas de faux autour de lui, c'est tout à fait normal. Mais il y a plus de faux que de vrais. Trouvez le vrai. Comme vous l'avez trouvé ce matin. Mais enfin, je vous assure, j'étais perdu au milieu d'une grande tempête. Est-ce qu'il n'y a que toi qui étais perdu? Mais c'est le monde entier qui est perdu. Et tu es venu et tu m'as donné ta main. Et puis il te tire de là. Le monde entier restait encore dedans et toi tu es sorti de là. Et puis tu commences à invoquer Jésus. Tu n'as pas encore une maison. Tu n'as pas encore une voiture. Tu n'as pas encore une veste. Mais le fait de l'invoquer déjà, les choses ont commencé. Mais enfin, bien-aimés, nous devions bénir Dieu. Non pas toujours et surtout, non pas à cause de ce qu'il nous a donné, de ce que lui-même s'est donné à nous. Ça, c'est la meilleure des bénédictions que nous puissions avoir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelle intelligence j'aurais pour te découvrir. Merci Jésus. Donc je ne dois pas dire, je ne dois pas prononcer ma prière n'importe comment et l'adresser à n'importe qui. Quelle perte de temps! Quelle perte de temps! Vous invoquez Baal, vous l'appellerez Dieu, mais il ne vous répondra pas. Or, vous êtes à quelques minutes de la mort. Il ne vous reste que la prière. C'est à cette époque-là que nous avons dit que la prière est une activité vitale. C'est elle qui reste après que tout vous sera ôté. Même si les condamnés à mort, les jours même d'aller le pendre là, il dit, il a droit d'avoir son pasteur. Il a droit d'avoir son pasteur ou son avocat ou je ne sais pas quoi. Il a droit de dire quelque chose à quelqu'un. Et puis il dit, bon, aujourd'hui je vais mourir, mais que mon pasteur vienne. Et puis il dit un mot, le pasteur prie pour lui. À ce moment-là, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de compte en banque, il n'y a plus de diplôme, il n'y a plus de relations, il n'y a plus tu es fils d'eux, il n'y a plus tu es de la famille d'eux. Il n'y a que la prière qui te reste en dernier lieu avant de mourir. Donc la prière peut changer ton avenir. C'est une activité vitale que personne ne vous trompe. Il dit, priez pour calmer votre douleur. Non, la prière, ce n'est pas une opium. Non, la prière, c'est la puissance de Dieu.
Si vous aviez la foi, vous diriez à cette montagne. L'opium ne fait pas ça. Quel opium va déplacer une montagne? Merci Seigneur. Alors je ne peux pas dire amen à n'importe quelle parole. Alors c'est étonnant. D'accord. Amen est un mot hébreu qui signifie en français, ainsi soit-il, une sorte de signature personnelle de celui qui prie, comme pour dire les choses se passeront, se feront, comme je l'ai dit. Cette fin réservée à la prière serait prétentieuse si la Bible ne citait pas ces mots à cette place, si Jésus ne l'avait pas enseigné ainsi, ne l'avait pas placé, ne l'avait pas mis à cette place. Les gens se demanderaient, qui es-tu pour signer de la sorte? Qui es-tu pour dire que les choses se passeront comme tu l'as dit? Toi qui? Mais aujourd'hui, nous allons voir une autre pensée plus profonde encore, ou sinon profonde comme celle-là, mais avec une autre dimension. Nous serions taxés de prétentieux que de dire qu'il en soit ainsi. Et ça, les mabongo, ndenga na lobby, ndenga na bondeli, ona senyona, et ça, les mabongo. Il a même l'ombre dans Zambie, il y a salama plina, il y a vanda plina. Yo nani, toi qui, nge nani. Les gens se diraient comme ça. Et plutôt aussi quand tu entends comme ça, tu dis, c'est vrai, hein, mounou nani. Nge nani, tu ne te connais pas. Mounou mouna en Zambie. Oh, mais dis, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Oh. Toi, tu peux dire à un prince que Yonani. Ainsi, par des aspects ci-dessous, nous trouvons, nous sommes en train de trouver la profonde valeur du mot Amen. Il est petit, mais il est très puissant. Il est petit, mais il est très puissant. Ces aspects sont les sceaux de l'Amen. Le deuxième aspect, la main de nos promesses. Et le troisième aspect, Jésus, notre Amen. Waouh, quelle puissance dedans, mes amis. Vous savez, il y a des choses qui vous font du bien, mais vous ne savez pas comment les transmettre aux autres. C'est pourquoi là, je ne sais pas, je saurais vous dire ce que je comprends et comment ça me fait du bien. C'est difficile. L'esprit peut comprendre, et l'âme est faible, et le corps est encore plus faible. Il n'a pas de mots. Si je pouvais prêcher en langue que vous tous vous ayez l'esprit, les dons d'interprétation, j'allais prêcher en langue, ça allait sortir véritablement. Mais ici, si je prêche en langue, mawa trop. Ces aspects sont les sceaux de l'Amen, l'Amen de nos promesses et Jésus notre Amen. Après le sceau de l'Amen, nous tous nous avons compris. Le sceau de l'Amen, ça veut dire sceau du verbe sceller. Sceller du verbe sceller qui signifie cacheter, qui signifie fermer hermétiquement. C'est ça sceller. Fermer solidement. Personne ne bouge. Personne ne touche. Évidemment, nous avons ajouté sauf celui qui a prié. Et c'est lui à qui il a adressé la prière, son père. L'ennemi humain, ou l'ennemi diabolique, ne peuvent pas changer ta prière. Et ça, c'est merveilleux. Après le sceau de l'Amen à nos prières, voyons ce matin ce que veut dire l'Amen de nos promesses. Nous avons dit tous ensemble que le sceau de l'Amen est une signature, quelque chose qui scelle, qui confirme et qui garde intact. Qui scelle quoi? Et nous comprenons tous ensemble qu'Amen est venu après la prière. Elle termine la prière, je veux dire. Nous ne voyons pas Jésus dire, voici comment vous devez prier. Amen, notre Père qui est aux cieux. Non. Parce que Jésus connaît la valeur de l'Amen. Mais nous, on veut commencer notre réunion. Le modérateur se lève, il dit à tout le monde, Amen, Amen, et puis la réunion commence. Mais Amen là, maintenant que tu as dit là, nous disons Amen à quoi? Tu n'as encore rien dit. Et puis quelqu'un, un modérateur, même le prédicateur, il passe devant. Amen. Maintenant, l'amen est utilisé comme pour dire silence. Mais c'est pas possible. Comment vous changez quelque chose de grand en quelque chose de simple? Silence, on peut le dire partout. Vous pouvez dire à quelqu'un, votre attention, s'il vous plaît. Vous pouvez dire, mes amis, prêtez-moi un peu d'attention. Au lieu de dire amen, non. Amen, tu dois d'abord dire quelque chose, et puis maintenant tu dis amen. Mais si tu commences en disant alléluia, alors tout le monde dit amen. Là, ça se comprend. Mais tu commences par amen, ta prédication commence par amen. Et c'est ce que nous avons dans les prédications, où les serviteurs, quelqu'un vous dira, personne n'amène à bien avec son cambo, dit, ah, il y a mis sanga le cambo, et moi je dis amen, ok, non pas le cambo, dit, l'église de la bonne matin est enseignée, quand vous entendrez ça, arrêtez, vous ne dites pas amen, vous direz, dis d'abord une chose, nous allons analyser. Si la chose là vaut la peine d'être scellée, je l'accélérerai. Je ne dirai pas amen à n'importe quoi et n'importe comment. Non. Dis-moi amen. Pekanga amen à bien. Naepso likambo. Non. Loba likambo. Loba likambo. Si tu n'as rien à dire, va t'asseoir. Laisse celui qui a quelque chose à dire et nous dirons amen. Non. Dis quelque chose et nous dirons amen. Il y a Pesanga le Kambo. Non. Pesanga amen à bien. Pesanga amen à mnene. Pesanga amen à poire. Pesanga na ebso le Kambo. Ozana le Kambo te. Sokozaina le Kambo. Tu allais dire quelque chose. Et nous, on allait dire amen. Parce que je ne veux pas gaspiller un tel potentiel dans le vide. Il n'y a rien. Je vais sceller quoi? Le vide? Non. Je ne scelle pas le vide. Merci Seigneur. Ainsi, après le son de l'amen à nos prières, voyons ce matin ce que veut dire l'amen de nos promesses. Et là, il y a des choses. L'amen de nos promesses, notez bien, l'amen de nos promesses révèle une autre dimension forte du mot amen. L'amen de nos promesses, écrivez et soyez prudents. Si vous n'avez pas encore compris, ne dites pas amen, parce que nous sommes en pleine séance d'amen. Donc vous ne direz plus amen en désordre. Tu es au téléphone comme ça, tu entends tout le monde amen. Amen. Tu vas me dire amen à quoi? Si tu dois dire amen après avoir analysé la phrase, tu l'analyses. Ah, amen. Oh, mais nous on avait dit amen avant, tu dis amen, c'est maintenant que j'ai compris. L'amen de nos prières révèle une autre dimension forte du mot amen. Car il n'intervient pas, le mot amen n'intervient pas, il n'intervient pas que pour confirmer nos prières. Il scelle aussi nos promesses. Le mot amen scelle nos promesses. Et ce n'est pas moi qui le dis. Nous lisons tous ensemble un texte très important que beaucoup n'ont pas encore lu peut-être. Où certains ont lu, n'ont pas compris, mais d'autres ont lu, ont compris. Et ils vont confirmer ce que j'ai dit. Un texte très important que nous allons lire calmement. Et si vous pouvez trouver 2-3 versions différentes, ça va nous aider. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 19 et 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 19 et 20. Si j'ai fait la confusion de Corinthiens, on va trouver ça tout à l'heure. 2 Corinthiens, chapitre 1, les versets 19 et 20. Vous trouvez ça en 8 secondes, vous trouvez ça en français courant, vous trouvez ça en parole de vie, quelque chose comme ça, ou parole vivante. Il est dit quoi? 2 Corinthiens, chapitre 1, voilà, c'est par là. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 1, les versets 19 et 20. Vous êtes là avec moi? Soyez prudents et c'est très important pour vous. La Bible dit, allons-y tous ensemble. Car le Fils de Dieu, il s'agit de qui? De Jésus. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, moi qui? Paul. Paul qui écrit aux Corinthiens. Par moi et par Sylvain et par Timothée. Tous ceux-là ont prêché qui? Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Ce Fils de Dieu-là, allons-y, n'a pas été oui et non. Que Christ peut être oui et non à la fois? Non. N'a pas été, ce Christ prêché par nous au milieu de vous, n'a pas été oui et non. Allons-y ensemble. Mais c'est oui qui a été en lui. Le verset 20 le plus important ici maintenant, lisons. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, lui qui? Jésus. C'est en lui que le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire du Dieu le Père. Waouh, quel verset! Je connais ce verset depuis le début de ma foi. C'est formidable! Un jour, je l'ai prononcé et je ne savais pas il était dans quel passage, mais j'avais déjà lu ça, mais je ne connaissais pas le verset. Au début de ma foi. Et puis quelqu'un a entendu, ça lui a plu. J'ai dit, ah, mais mon frère, à la fin, il me dit, mon frère, ce verset-là est où? J'ai dit, même moi, je sais que ça est dans la Bible, mais je ne sais pas ça est où. Et puis, il faut le chercher. Dans une autre version, il est dit quoi? Vous avez trouvé une autre version? Rapidement. C'est ça l'autre version? Non? Bon, ils ne sont pas là. Ils vont me perdre le temps. Car, pour ce qui concerne toutes les versions, non, toutes les versions, c'est vous qui m'induisez en erreur. Si vous êtes contre moi aujourd'hui. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, en Jésus, qu'est le oui. Pour les promesses de Dieu, le oui, c'est en Jésus. C'est pourquoi encore l'amen par lui. Ce n'est pas lui qui prononce amen. L'amen par lui, au travers de lui, est prononcé par nous à la gloire de Dieu. La notre amen là est prononcé où? À quel sujet? Au sujet des promesses de Dieu. Lesquelles promesses de Dieu sont oui en Jésus-Christ? Waouh! Comment on peut dire que les promesses de Dieu sont oui en Jésus-Christ? Ce n'est pas ça. Est-ce qu'ils ont trouvé quelque chose? Vous avez trouvé quoi? Ça c'est quoi? Français courant, ok, essayons si c'est français courant. Allons-y. Il est dit, car Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que nous avons annoncé chez vous, Silas, Timothée et moi-même, n'est pas venu pour dire hein, oui et non. Non. Au contraire, en lui, il n'y a jamais eu, il n'y a jamais eu que oui. Amen. Alors, le dernier verset dit, en effet, il est le oui qui confirme toutes les promesses de Dieu. C'est donc par Jésus-Christ que nous disons notre amen pour rendre gloire à Dieu. Le oui, c'est en lui que le oui est venu pour confirmer toutes les promesses de Dieu. Pour confirmer. Il n'est pas dit pour annoncer. Pesez bien les mots. Quand on annonce quelque chose, c'est que la chose hein, n'est pas encore connue. N'est pas encore là. Mais quand on confirme une chose, c'est que la chose était déjà annoncée, mais maintenant on vient la confirmer. Est-ce que c'est clair? Maintenant, quelle est la place de l'amen là-bas dedans? Et nous disons amen. À quoi? Aux promesses de Dieu qui sont oui en Jésus, confirmées en Jésus. Toute promesse, notez, toute promesse faite par Dieu est déjà en soi un oui de volonté de sa part. Est-ce que ça c'est clair? Toute promesse faite par Dieu est déjà en soi un oui de volonté de sa part. Un oui de volonté. Nous disons au marié, si acceptes-tu de prendre tout ça, si tu le dis, tu le veux, dis-le nous par un oui, je le veux, audible de nous tous. Un oui, je le veux. Donc un oui de volonté. Il n'y a pas une promesse de Dieu que Dieu a faite sans qu'il y ait sa volonté impliquée. Non. Dieu n'a pas été forcé pour faire la promesse à qui que ce soit. C'est sa volonté personnelle. Donc, il y a déjà un oui en lui de volonté. Lui-même s'est dit, je le veux. Je veux lui faire cette promesse. Un oui de volonté. En tout cas, ce n'est pas sans thème. Hein? Le propriétaire, tu dois te connaître, faites quelque chose. Toute promesse faite par Dieu est déjà en soi un oui de volonté de sa part. Est une acceptation. Je le veux, c'est pourquoi j'ai fait la promesse, n'est-ce pas? Alors, quel est le sens? Quel est alors le sens d'un autre oui? Parce que la promesse elle-même a déjà un oui volontaire, a déjà la volonté dedans, la volonté de Dieu de faire du bien à quelqu'un. Je te ferai ça, je ferai ça à ta postérité, je ferai ça à ton pays, je ferai ça, je te ferai ça, tu deviendras ceci. C'est lui-même qui a pris plaisir de te faire la promesse. C'est déjà un oui volontaire, n'est-ce pas? C'est déjà une acceptation, c'est déjà une volonté propre. Qui dit volonté propre dit oui. Il y a déjà ça, parce qu'il n'y a pas de promesses de Dieu, comment? De promesses de Dieu forcées. Toute promesse faite par Dieu est déjà en soi un oui de volonté de sa part. Oui de volonté, c'est-à-dire un oui qui exprime sa volonté. Est déjà oui, est déjà volontaire. Quel est alors le sens d'un autre oui? Parce que la promesse est déjà un oui, la promesse est déjà sa volonté. Quel est donc le sens d'un autre oui suivi de l'amen du bénéficiaire? Le sens c'est quoi? Pourquoi Dieu ajoute-t-il un oui supplémentaire? Est-il nécessaire? Tu as déjà fait la volonté. Dès que tu dis à quelqu'un, je veux prendre soin de ta nourriture pendant un mois. C'est moi ici, je veux payer par exemple ta maison. Pour ce mois ici, je mets ma voiture à ta disposition, fais tes courses, dès que le mois se termine, tu me remets. C'est que c'est déjà volontaire, il ne t'a pas demandé, c'est volontaire. C'est qu'il est déjà d'accord, parce que quand on dit oui, ça veut dire d'accord. Veux-tu faire ceci pour moi? Oui. Ça peut se remplacer par, veux-tu faire ceci pour moi? D'accord. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, quand quelqu'un fait la promesse, c'est qu'il est déjà d'accord avec lui-même. C'est déjà un oui. Mais Dieu vient ajouter un autre oui. C'est en Jésus qu'est le oui. Cet autre oui-là, a quel sens? Pour que nous disions, nous finions par dire, les bénéficiaires de la promesse finissent par dire, amen. Pourquoi Dieu ajoute-t-il un oui supplémentaire? On dirait, et ça c'est moi qui vois, et je ne sais pas qu'est-ce que vous allez voir vous. On dirait qu'il y avait une contestation autour de la promesse. On dirait qu'il y avait une contestation autour de la promesse. Non pas la promesse, évidemment, non pas à la promesse elle-même. À propos de la promesse elle-même, mais à propos de celui à qui la promesse est faite. On dirait qu'il y avait une contestation. Une contestation du genre, es-tu sûr que c'est avec une telle personne que tu veux faire ça? La promesse est faite. Dans l'assemblée comme ça, Dieu arrive. Il te dit, toi là, tu seras enceinte et tu auras un enfant. Et cet enfant deviendra président de la République. Vous regardez la personne qui va enfanter le président de la République, vous dites, moi, je suis au Penza, je suis président de la République. La promesse, tout le monde sait qu'elle vient de Dieu. Ok. Dieu, on ne peut pas le contester. Personne ne peut aller auprès de Dieu pour annuler la promesse. Mais on conteste celui à qui la promesse est faite. La plupart des contestations autour de la promesse ne se fait pas auprès de Dieu. Ne se fait pas au sujet de Dieu, mais au sujet de l'homme bénéficiaire. Les hommes peuvent dire à Dieu, pourquoi Dieu a dit oui pour la deuxième fois alors qu'il avait déjà fait la promesse, il dit encore oui. C'est comme s'il y avait cette contestation. Les hommes disent du genre, une contestation du genre, es-tu sûr que c'est avec une telle personne que tu veux faire ça vraiment? Est-ce que tu as bien réfléchi? Et Dieu dit, oui. Ah. Dieu qui avait déjà choisi la personne au milieu de tant d'autres personnes, Dieu a vu qu'au milieu de vous, il y a des grands, il y a des intelligents, il y a des belles, il y a des riches, il y a des propres, il y a des éduqués, il y a des instruits, il y a des nobles. C'est Dieu-là qui connaît tout le monde, d'où il est né, où il est né, quand il est né, qu'est-ce qu'il est devenu, quelle bêtise, quelle bassesse, dans quelle bassesse il a grandi, dans quel coin il a évolué. C'est Dieu-là qui connaît chacun de nous. Et au milieu de 1000 personnes, il vient, il pointe quelqu'un. Et les hommes qui sont là-bas posent la question à Dieu. Es-tu sûr, vraiment, que c'est avec une telle personne que tu peux faire ça? Dieu dit, oui. Je vous assure, Dieu dira et dira encore et toujours, oui. Ça, je vous assure. À moins que ce soit quelqu'un d'autre qui t'a appelé. À moins que ce soit quelqu'un d'autre qui t'a promis. À moins que ce soit quelqu'un d'autre qui t'a béni. À moins que ce soit quelqu'un d'autre qui t'a dit, je te bénirai. Si c'est Dieu, il dira, oui. Ils vont, ils font 1000 ans, ils reviennent encore. Dieu dira, oui. Et même il pourra arriver qu'il te trouve dans une circonstance désagréable. Ils disent à Dieu, même avec ce que tu vois là, Dieu dira, oui. Même il trouve, il t'attrape en flagrant délit, de quoi que ce soit. Et puis ils reviennent. La Bible dit, j'ai fait la promesse à David. Mentirai-je à David? Non. Je lui ai dit qu'après toi, il y aura toujours quelqu'un sur ton trône. Je ne peux pas changer ça, ce qui est sorti de mes lèvres. Dieu dit, je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Mais maintenant Dieu dit, les hommes pourront me dire, mais tu ne vois pas qu'il a péché. Dieu dit, si ses enfants pêchent, je les frapperai par le coup d'homme. Mais il ne sera pas question que je change. Si je pêche et que tu pêches, Dieu te frappera. Mais la promesse restera, oui. Ah. Est-ce que je dis que va pécher? Si tu pêches, c'est ton problème. Dieu te donnera des coups. Bien aimé, les coups de Dieu. Dieu lui-même dit que je lui donnerai des coups d'homme. Dieu, Moutoussoga, pêche au coup. Pan, toi-même, tu dis, waouh! Prenons les coups de Dieu. Donc ne pêche pas. Hein? Mais Dieu dit, parce que Dieu sait que les hommes, là où ils trouvent que Dieu s'est trompé, quand ils voient que la personne que Dieu a choisie se comporte de manière pas vraiment excellente, les hommes disent, même lui, vraiment, tu ne vois pas. Dieu dit lui-même avant, si ses enfants pêchent, je les frapperai par des coups d'homme. Mais il ne sera pas question que je retire ma parole à David, car je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai dit à quelqu'un ici que Dieu t'a déjà frappé des coups, ou tu es en train d'être frappé des coups. Tu es en train de connaître des situations et tu te poses la question. Dieu qui m'a promis, avec des situations, des coups que je reçois, est-ce que Dieu gardera? Dieu dit oui. Dieu te frappe ici. Pia, tu ne peux pas faire ça, mais comment ça? Tu es mon enfant, je dois te corriger. Pia! Et puis tu te dis, comme Dieu me tape là, et la promesse qu'il a dit que j'aurai un président dans ma famille, est-ce qu'il va encore? Dieu dit, ça ne concerne pas la présidence. Là, je l'ai déjà dit, ça reste comme ça. Mais toi, je te corrige. Mais quant à la promesse, elle reste, oui. Ah. Mais enfin, une contestation du genre, es-tu sûr que c'est avec une telle personne que tu vas faire cette chose-là? Dieu répond, oui. Je me demande, pourquoi les hommes pensent-ils faire réfléchir Dieu au sujet de ce qu'il fait avec celle-ci ou avec celui-là? Pourquoi? Pose la question, parce que ton frère est homme. Pose la question à ton frère. Pourquoi nous les hommes? On veut faire réfléchir, on pense faire réfléchir Dieu au sujet de ce qu'il veut faire avec tel ou avec tel autre. Pourquoi? Tu ne lui as pas posé la question, pose-lui la question. Pourquoi? Parce que vous là, vous vous posez la question au sujet de quelqu'un d'autre. Il dit, mais pourquoi? Ça, ce n'est pas Dieu. Avec ce que tu es là, on sait comment tu as avorté. On sait comment tu as fait ça. On sait comment tu t'es comporté dans le passé. On sait, on connaît ta famille. Vous êtes une famille maudite. Vous êtes une famille de malédiction. Est-ce que c'est Dieu? Pourquoi? Je me pose la question. Pourquoi les hommes pensent-ils qu'ils peuvent faire réfléchir Dieu au sujet de ce qu'il fait, avec qui il veut, au sujet de ce qu'il fait, avec celle-là ou avec celui-là? Nous sommes ici ensemble. Ce n'est pas l'un de nous ou moi-même qui suis devant vous qui peut décider avec qui Dieu va faire quoi. Ce n'est pas un homme qui décidera. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même qui décide. Quand Dieu a déjà décidé, qui es-tu pour le faire réfléchir? Qui es-tu, homme, pour le faire réfléchir? Si Dieu lui a dit, tu vas aller loin, il ira loin, ça n'a rien à voir avec ce que nous faisons. Les promesses de Dieu ne tiennent pas compte de notre origine, ne tiennent pas compte de notre sagesse, ne tiennent pas compte de notre sainteté. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Vous allez me prêter attention comme vous voulez, pas de problème, je veux être dans les Écritures. Les promesses de Dieu ne tiennent pas compte de la sainteté, sinon Dieu changerait ce qui est sorti de sa bouche. La sainteté, elle est bonne parce que nous devons honorer notre nouvelle vie en Christ. Mais ce n'est pas la sainteté, ce n'est pas ta sanctification qui te fera que la promesse s'accomplisse. Écoutez, vous pouvez dire ce que vous pouvez dire. Je veux lire ce qu'il y a dans les Écritures. Parce que personne, quelle que soit sa capacité de se comporter, ne sera capable de pouvoir convaincre Dieu afin de lui faire une promesse. La promesse de Dieu est un acte, une action de souveraineté et d'amour. Je le veux comme ça. Si j'attends, j'attendrai longtemps. Même Noé n'a pas reçu. La Bible dit que Noé fut trouvé intègre. Mais la Bible ne dit pas que Noé fut trouvé parfait, irréprochable. Parce que c'est le même Noé qui sort de l'arche et qui boit et qui s'enivre et qui va faire des choses. Est-ce que c'est à cause de cela que Dieu l'a sauvé? Non. Noé, la Bible dit précédemment, Noé trouva grâce. La grâce ne suit pas ce que l'homme fait. Non. La promesse est faite par grâce. Bien-aimé, si tu as une promesse, si tu entends la parole de Dieu, tu as reçu une promesse, cette promesse-là ne s'annulera pas. Même autour de toi, il y a toutes sortes de remous, toutes sortes de bruits. La promesse de Dieu, elle n'est pas venue parce que tu es intelligente. Elle n'est pas venue parce que tu es belle. Si c'est à cause de la beauté, Dieu va la changer. Dieu ne peut pas te faire la promesse à cause de ta beauté, de telle sorte que tu te dises, si je n'étais pas jolie, Dieu ne serait pas venu. Dieu venir auprès de toi parce que tu es belle. Dieu venir auprès de toi parce que tu es intelligent. Non, Dieu vient par sa grâce. Et la grâce ne peut pas être reconnue et même être qualifiée, être respectée par des hommes. Les hommes se posent la question. Moi, si au père, comment ressemble là? Moi, si au père, comment ressemble là? Comment? Et puis, elle s'est convertie. Bon, peut-être que ce n'est que le mensonge. Et puis, elle se marie. Elle qui a avorté tout le quartier qu'on est. Elle s'est mariée. Non, on n'est pas fabrication. Non, Dieu l'a transformée et Dieu lui a donné. Pendant ce temps, celle qui se confie dans sa beauté et dans sa virginité, ce qui n'est pas mauvais, celle qui se confie dedans, reste là. Dis, moi, je suis resté vierge depuis longtemps. Oui, tu te confies dans ta virginité. Si tu te confiais en Dieu, les choses changeraient. Quelqu'un d'autre ne se confie pas, ni dans sa beauté, ni dans sa virginité, ni dans ses origines, ni dans ses études, ni dans sa formation, ni dans... Oh non, non, elle ne peut pas se confier dans... Elle ne peut pas se confier dans... Mais elle sait que moi, tel que je suis là, vraiment, nana otalangai. Dès l'instant où tu dis que nana otalangai, à ce moment-là, les yeux du Seigneur viennent auprès de toi. Pour que le jour où tu seras visité, tu ne t'attribues pas la gloire et que tu dises, en tout cas, tel que je suis, mais marié, c'est l'œuvre du Tout-Puissant. C'est en Dieu. Mais les hommes et les femmes murmurent toujours au sujet du choix de Dieu. Les hommes et les femmes murmurent toujours au sujet du choix de Dieu. Dans tous les siècles, au sujet du choix de Dieu, les gens murmurent. Même à ton sujet, les gens murmurent. Les gens murmurent, non, ce n'est pas vrai. Pas lui, pas elle. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas grave. Vous murmurez sur la terre. Mais l'action qui m'est choisie n'est pas au milieu de la terre. L'action est en haut et la discussion en bas. Peu importe ce que vous dites, ce que je suis, je le deviendrai. Alors, je me demande, pourquoi les hommes pensent-ils faire réfléchir Dieu au sujet de ce qu'il fait avec celui-ci ou avec celle-là? Remarquez que Dieu prononce le oui de la confirmation. Nous l'avons lu, n'est-ce pas? Remarquez que Dieu prononce le oui. Ça, c'est un deuxième oui, comme pour dire, il confirme. La dernière version, là, elle est vraiment claire. Confirme la promesse par le oui, là. Remarquez que Dieu prononce le oui de la confirmation de sa promesse. Et il laisse à l'homme de dire hein, amen pour la sceller. Ah. Dieu n'a pas dit amen. Dieu a dit, quand tout le monde dit, penses-tu vraiment que tu peux faire ce que tu as dit là vraiment, c'est avec une telle personne que tu vas faire ça. Vraiment, tu n'as pas trouvé quelqu'un d'autre. Dieu écoute les contestations, après ça Dieu dit, oui, je vais faire. Mais maintenant que Dieu a dit oui, les autres se taisent. Mais au milieu de l'assemblée, les concernés se lèvent et disent, amen. Ah. Je voulais dire à un homme, quand ton Dieu, je veux dire à un enfant de Dieu, quand ton père a déjà dit oui, toi dis, peu importe ce que les hommes disent, ferme les yeux, dis amen. Ne regardez pas qu'est-ce que les hommes disent, parce qu'au milieu d'une foule comme ça, qui murmure, est-ce que c'est vraiment avec lui que Dieu peut faire ça? Dieu dit oui, tout le monde entend que c'est Dieu, et tout le monde s'était. Toi aussi tu t'étais? Tu te dis, non, ben, si je parle ici, Dieu n'est pas ici sur place. Hein. Si je parle ici, ils vont sauter tous sur moi. Ils vont me lapider. Quand Dieu a déjà dit oui à ta promesse, et toi dis, amen, en présence des gens, n'en aie pas honte. Car s'ils n'ont pas pu changer la promesse dans le cœur de Dieu, ils ne la changeront pas sur le terrain. Autrement dit, s'ils n'ont pas changé la promesse là-bas, sur le terrain, ils ne tueront pas l'homme de promesse. Ils ne tueront pas l'homme de promesse. Ils ne tueront pas la fille de promesse. Ils ne tueront pas la femme de promesse. Ils ne tueront pas l'homme de promesse. Ils ne tueront pas un enfant de Dieu qui a la promesse. La promesse est soutenue à partir du cœur de Dieu. Vous voulez me tuer? Changez d'abord là-bas. Parce que la promesse est là, tout un cortège qui la protège afin de créer de l'espace à l'homme de la promesse. Cet homme l'a dit à haute voix. Amen. Dieu dit oui. Non, Dieu me fait la promesse. Dieu la confirme après la contestation. Et moi, je dis amen. Je ne peux pas traîner. Quand Dieu a déjà dit oui, moi, je ne peux plus avoir peur de qui que ce soit pour ne pas dire amen. Écoute, dis amen. David. Le mépris, je commence par le mépris d'Eliab. Le mépris d'Eliab. Et le tâtonnement de Samuel n'avait pas suffi pour effacer David dans le cœur de Dieu. Le mépris d'Eliab. Si Eliab l'a méprisé au front, c'est-à-dire que ce mépris-là avait commencé le jour de l'onction.
Il est resté avec la colère le jour de l'onction. Eliab passe, dit non, ce n'est pas celui-ci. Shama passe, non, ce n'est pas celui-ci. Quelqu'un d'autre passe, non, ce n'est pas celui-ci. Tous les sept passent, non, ce n'est pas celui-ci. Ou tous les six, ou tous les sept. Et puis quelqu'un d'autre passe. Et puis il se demande, est-ce qu'il n'y a que tous tes enfants là vraiment? Il n'y a que ça. Samuel avait déjà dit, oui, le oint de l'Éternel est là. Dieu dit, non, ce n'est pas lui. Passe. Et puis après, quelqu'un d'autre dit, ah oui de l'Éternel, le oint de l'Éternel est ici. Non, ce n'est pas lui. Passe. Et puis Samuel dit, non, ce n'est pas lui. Lui aussi, l'Éternel l'a rejeté. Les mots sont forts, hein? Tu es dans la maison de papa, toi tu es né. Et puis on dit que lui, l'Éternel l'a rejeté. Dis seulement que non, l'Éternel ne l'avait pas choisi. Mais quand tu dis que l'Éternel l'a rejeté, ça va créer des conflits. Il dit à haute voix, l'Éternel l'a rejeté. Un autre dit, l'Éternel l'a rejeté. Un autre dit, l'Éternel l'a rejeté. Jusqu'à ce que tout se termine. Bon, l'Éternel a rejeté toute la famille. Mais pourquoi il est venu dans notre maison? Oh non, est-ce que tu n'as pas un autre vraiment? Dieu ne peut pas se tromper. Tu n'as pas un autre enfant. Dieu, non, il y a un tout petit. Autrement dit, si tu n'as pas choisi ceci, ce n'est pas celui-là que tu choisiras. Inutile même de l'amener ici. Il dit non. Amenez-le d'abord. On l'amène. Tant qu'il ne sera pas ici, on ne va pas s'asseoir pour manger. Il dit, comment? Les autres sont déjà frustrés par les rejets. Ce n'est pas le manque de choix, mais le rejet. Le rejet est très difficile que le manque de choix. Parce que vous pouvez ne pas choisir quelqu'un, mais vous le gardez dans le cercle. Mais le rejet, ça veut dire quitte le cercle. Ah, vous savez pourquoi les gens sont contre vous? Parce que les gens ont été... Les gens sont contre vous parce que les gens ont été rejetés. Et quand le petit arrive, dès que le petit s'approche, tout le monde voit le petit qui vient. Oh non, il veut passer, s'échanger. Ah non, on n'a plus assez de temps. Passe par ici, dit. On va te rejeter, toi aussi, puis tu rentres devant les bergers, les brebis. On va te rejeter. Nous, on nous a rejetés, c'est toi qu'on va garder. Toute la maison était rejetée. Non, toute la maison n'est pas rejetée. Il ne faut pas que quelqu'un vous entraîne dans son rejet. Ah, mais enfin, dit. Écoutez, il ne faut pas que quelqu'un vous entraîne dans son rejet. À l'église de la bonne, ah non, Kunaba Pona Rabilongi. Vraiment, l'église de la bonne, les âmes à B. Quand si tu dis les âmes à B, sur les âmes à B, au moins, ma bénine, n'a la monnaie en côté. N'a la monnaie ma béouana, t'es. Ah, pasteur, on a vraiment, pasteur, on a Simbaba qui s'est belé, Adam, toi, ma magie. Ah, on les a dit, on a qui. Mais on a la monnaie, les âmes en côté. Bien aimé, n'entrez pas dans le rejet de quelqu'un. Et puis toute la foule est rejetée est là. Toute la famille rejetée est là. Ils sont rejetés en public parce que tous les anciens de la ville sont là. Rejetés en public. Et le petit garçon vient. Oh, dis non, tu passes, je vais me charger. Non, il passe directement. Il passe directement. Dès qu'il arrive, tout le monde le regarde. Samuel dit, c'est lui. Tu nous rejettes, nous. Et c'est lui que tu prends pour donner. Et puis donner l'onction. Il prend l'onction, il dépose. On mange. La fête est dans toute la ville, sauf dans les cœurs des aînés. Les rejettes. Autrement dit, Seigneur, vraiment, est-ce que tu ne t'es pas trompé? Samuel ne s'est pas trompé. C'est vraiment lui, le petit ici. Il dit, ok. Comme vous pensez que ce n'est pas lui, vous allez voir. Devant Goliath, c'est l'occasion maintenant que Dieu confirme la parole. C'est pourquoi il y a la promesse et il y a le oui de confirmation. Et après quoi? Le propriétaire, ce n'est pas tout le monde. Le propriétaire de la promesse dira amen. Dieu crée une occasion pour confirmer. Et puis Goliath est là, 40 jours, 40 nuits, personne ne sort. Les rejetés n'ont pas la force d'aller combattre, vous êtes rejetés. On a commencé par rejeter Saül. Tout le monde sait qu'il a été rejeté. Mais il a péché, c'est pourquoi on l'a rejeté. Mais moi, Eliab, j'ai fait quoi? Je n'ai rien fait. Pourquoi Dieu me rejette? Tu n'as rien fait, mais ce n'est pas son choix. Et puis le petit garçon, lui aussi son père, va leur déposer à manger. Dieu est en train de mettre les scénarios en place. Tout le monde comme de petits enfants. Saül, va à la guerre. Vous, Eliab, allez-y à la guerre. Toi, papa, envoie ton fils, allez laisser à manger. Tout ça là, c'est Dieu. Laisse Dieu travailler pour toi. Car les... Waouh! Les petits arrivent.
Il dépose à manger. Vous allez bien? Oh non, nous allons bien ici. Tu nous as déposé. Papa va bien. Oh, papa va bien. Mais c'est bon. Ok, je vous dépose à manger. Mais pourquoi il y a les gens qui sont la foule comme ça? Mais celui-là qui est dedans, dans la vallée, là, c'est qui? Oh non, mais voilà. Et puis paf. Qu'est-ce qu'on fera? Vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce qu'on en fera? On dit non. Celui qui fera sera affranchi. Sa famille sera affranchie. Mais lui, il aura la femme du roi. Mais le problème n'est pas ni au niveau d'être la fille du roi, ni au niveau d'être. Avoir la fille du roi, ni au niveau d'être affranchi. La chose se joue à un autre niveau, c'est la confirmation. Parce que depuis ce temps-là qu'il y a eu le rejet de beaucoup de gens, le calme et la tristesse, la frustration de la famille, il faut confirmer. Les gens se disent, est-ce que c'est ce petit-là qui saura diriger le pays, hein? C'est ce petit-là qui va nous diriger. Bien-aimé, si Dieu t'a appelé, attends, il y aura des moments de confirmation. Ça, je vous le dis, écoute, il y aura un moment de confirmation. Si Dieu a mis un appel au ministère, un appel pastoral, et que l'église et les serviteurs ne connaissent pas encore, n'abandonne pas. Il y aura un moment. Ça sera une petite occasion. Ça sera, oh non, mais on est un peu coincé, ma soeur. Est-ce que tu peux dire un petit mot? Le jour que tu diras le petit mot, ça sera le oui de Dieu, en plus de la bénédiction qu'il t'avait déjà donnée. Chacun de nous a une occasion dans laquelle Dieu dira oui pour confirmer. Le petit va et dit non, je vais me battre contre lui. Tiens, toi tu es petit comme ça, je vais me battre contre lui. Tout le monde ne comprend pas que Dieu veut les confirmer en public. Je l'ai oué dans un village, ici je vais le confirmer devant tout Israël. Je vais dire un oui. Et David va lui dire amen. Son amen n'est pas un amen seulement verbal. Son amen c'est, je vais me battre contre cet homme. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si ton Dieu a dit oui, ne reste plus sans action. L'humilité ne doit pas te faire disparaître. Parce que beaucoup de gens pensent que le fait de manquer de faire des actions, c'est ça l'humilité. Non, l'humilité n'est pas dans le manque d'action. L'humilité, vous pouvez faire l'action, mais vous êtes humble. Quand ton Dieu a déjà dit oui, ne regarde plus tes voisins. Et puis qui vont te donner le conseil? Ceux qui te donnent le conseil, ce sont eux qui ont été rejetés hier. Quelqu'un qui a été rejeté, dis-moi, il voulait être là où tu es. Et lui a été rejeté. Il va te donner quel conseil pour accéder là-bas? Une fille qui veut se marier et qui ne se marie pas. Les garçons qui pensaient qu'il va venir vers moi, il ne va pas vers lui, vers elle. Il va vers toi. Et puis toi, il veut te demander conseil. Quel conseil tu vas lui donner s'il veut te demander conseil, toi qui as été rejeté? Hommes et femmes, il y a des personnes avec qui nous ne devons pas marcher. Il y a des personnes avec qui nous ne devons pas, que nous ne devons pas écouter. Tu as été rejeté, je n'écoute pas. Et puis non, tu veux te battre, nous connaissons ton orgueil et la malice de ton cœur. Oh, ça c'est le rejet qui vous fait parler. La Bible dit, et il s'en détourna. Quand Dieu dit oui, je dirai amen. Ma promesse n'a pas besoin de deux amen. Ma promesse à moi a besoin d'un seul amen. C'est l'amen de qui? Mon propre amen. Quand Dieu dit oui, c'est moi qui dis amen. Ce n'est pas toi, mon frère, que tu le dis, que tu le veuilles ou pas. Ce que je dois devenir, je le deviendrai. Le garçon va sur le terrain et il va battre Goliath. Les mêmes jours, les femmes qui n'étaient pas les jours qu'on avait oint. La confirmation, la promesse ne te révèle pas. C'est la confirmation de la promesse, autrement dit, l'accomplissement de la promesse qui te révèle. La promesse te fait même, la promesse te fera même mépriser. Mais l'accomplissement de la promesse va te recommander. On ne chante pas pour un homme parce qu'il a reçu la promesse. On ne marche pas avec un homme parce qu'il a reçu la promesse. Tout le monde le traitera de mauvais et de tout. Je dois terminer. D'orgueilleux, de prétentieux. Mais, lui-même sait que je n'ai pas inventé. C'est quand la promesse est accomplie, confirmée sur terrain, que les hommes se respectent. Les femmes qui n'étaient pas les jours de l'onction vont venir pour dire, vont chanter partout. Ils n'ont pas vu David comme ça chanter. Saül a tué 1000. Nous l'avons déjà vu. Mais, ce que nous venons de voir aujourd'hui, c'est vraiment la valeur de 10 000. Comment? À ce jour-là, le rejet de Saül est confirmé en public,
L'onction de David est confirmée en public. Pourquoi? Parce que David s'est levé pour dire Amen. L'Amen de nos promesses. Amen. C'est la dernière phrase. Aman ne pouvait pas comprendre que le roi ait choisi Mardoché, une sentinelle, un esclave et un étranger. Choisir premier ministre de notre royaume. Il ne peut pas comprendre ça. Lorsqu'on va le choisir, lui, Mardoché ne dit pas non, tu vois, vous pouvez mettre même quelqu'un d'autre, je vais vous donner quelqu'un. Non, c'est moi qui dis Amen. Le roi t'appelle, monte sur le cheval, Aman va te promener, Amen. Il monte, on le promène partout. Quand Dieu dit oui, moi je dis Amen. Baissons le tête dans la prière, vu les gens. Merci Seigneur. Wow. Merci Jésus. Tu as voulu abandonner ta promesse parce que les hommes ont respecté. Tu as laissé de côté tes rêves parce que ça fait trembler les hommes. Tu as abandonné quoi? Parce que les hommes ont beaucoup parlé et tu n'as pas voulu dire Amen. Non. Dieu a déjà dit oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un au sujet duquel Dieu a dit oui pour la deuxième fois? La promesse déjà, le salut déjà. Et puis Dieu dit, viens confirmer, oui. Il ne reste que ton Amen. Il ne reste que ta signature. Il ne reste que ta confirmation à toi. Ton Amen, seule ta promesse. Dieu a déjà dit oui. Personne ne t'effacera. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ne regarde pas autour de toi qui t'accompagne, qui ne t'accompagne pas. Ne regarde pas autour de toi qui t'approuve et qui te désapprouve. Ne regarde pas qui conteste autour de toi. Dis Amen. Alléluia. Que celui qui a été touché quelque part et celui qui est intimidé par des hommes et des femmes rejetés, que celui-là, celle-là, se dise, peu importe comment les hommes vont me considérer, je dirai Amen. Le Seigneur a dit oui, je ne manquerai pas de dire Amen. Ça ne dépend pas de quelqu'un, d'un homme, d'une femme. Ça dépend de ce que Dieu a choisi. Comment il a choisi? Alléluia. Tu as été touché. Lève-toi avec les autres qui se lèvent. Dis au Seigneur un mot. Dis au Seigneur, je ne veux plus être distrait. Je veux dire Amen. Là où tu as dit oui, je dirai Amen. Quand mon Dieu a déjà dit oui, je dirai Amen. Alléluia.